Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masseri Kabissimoi.
Au sommaire de cette édition, condamnation à la peine de mort d'un élément des FARDC dans la province du Kwango. Le tribunal militaire de Kikwit le poursuit pour le meurtre d'un commerçant de Kaemba après une dispute. Le gouverneur de l'Ituri s'insurge contre le sentiment anti-MONUSCO qui se développe dans certaines localités de sa province. Le général Johnny Luboyankachama redoute le risque de mettre en péril le partenariat avec le gouvernement congolais pour la protection des civils. Notre invité, c'est la chef du HCR à Goma, au Nord Kivu. Madame Jackie Kigen affirme que les tueries et les autres actes de violence rendent difficile le travail de la protection de la population dans la région. Madame, Messieurs, bonsoir. Justice pour commencer votre journal. Dans le Kwango, le tribunal militaire de Kikwit, siégeant en chambre foraine au premier degré, hier à Kaemba, a condamné à la peine de mort un élément du 111e bataillon des FARDC. Il est poursuivi pour le meurtre d'un commerçant de Kaemba en novembre dernier après une dispute. Le conseil du condamné dit avoir introduit un recours. Le compte-rendu d'Irène Boma.
Le verdict vient de tomber contre les militaires Sekope Buzakare, un élément de FARDC basé à Kaemba au Kwango. Le tribunal militaire de garnison de Kikwit l'a condamné à la peine de mort, indique les sources proches de ce tribunal. Il est aussi sommé de payer ensemble avec l'État congolais à la partie civile Munganga Fani la somme de 50 000 dollars américains équivalent en francs congolais comme frais de dommages et intérêts. Du côté des avocats du condamné, le capitaine Augustin Malukan, conseiller principal, respecte la décision du juge, mais affirme avoir interjeté l'appel.
Nous respectons la décision du juge, mais nous avons aussi le droit d'aller en appel. Depuis hier, c'est hier qu'il a interjeté l'appel. Mais aussi, nous devons tirer des conséquences par rapport à ce qui est arrivé. La police nationale, que ce soit l'armée, nous avons comme mission première de pouvoir sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. La population également doit nous donner confiance, doit travailler en collaboration avec tous les services de sécurité. Il ne faudrait pas que la population puisse provoquer le militaire vice-versa.
Pour rappel, le soldat Buzakare est poursuivi pour avoir tiré des balles réelles sur un jeune commerçant qui était décédé sur les champs en date du 19 novembre dernier au marché de Kaemba. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Non loin de là, dans le Maïndombe, Mitera Katoria, l'enseignant présumé auteur du viol ayant coûté la vie à une mineure élève de la 5e primaire à Oshwe, est suspendu de ses fonctions. Ainsi en a décidé le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ambroise Nkele assure que l'enquête se poursuit pour retrouver l'enseignant en cavale. Il a été joint par Irène Boma.
Après avoir appris l'acte posé par l'enseignant, une mesure est arrêtée, l'enseignant est suspendu préventivement. Effectivement, il y a des enquêtes. Nous avions aussi appelé les sous-divisions environnantes. Nous avions formé les amis enseignants qui sont partout, qui les connaissent. On est en train de les chercher. Une fois, quand on les trouve quelque part, on l'arrête et on va nous faire signe pour que nous, à notre niveau, nous fassions signe aussi et on les ramène en justice suivant l'acte posé. Vraiment, c'est malheureux, c'est vraiment honteux d'avoir qu'un enseignant, qui parvient à poser cet acte et surtout qu'un enseignant est responsable de violer un enfant de 8 ans. Vraiment, c'est aberrant. Nous sommes très choqués. On ne sait pas s'il était envoûté par quel esprit, on ne sait. Vraiment, c'est inquiétant pour nous tous. Les messages que nous continuons à les marteler, tous ces enseignants-là qui utilisent de telles pratiques, une fois attrapés, on les chasse directement.
Pour rappel, le 29 novembre dernier, cet enseignant de 39 ans a violé une élève de 8 ans qui en est morte le lendemain à l'hôpital général d'Oshwe. Et puis au Nord Kivu, le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale principale pour le musicien Delphin Idengo, alors que son collègue Moïse Nzanzou devrait passer 2 ans derrière le barreau. La décision du tribunal militaire garnison de Goma est attendue la semaine prochaine. À Goma, une correspondance Gabriel Ouamenia.
La véhémence du ministère public pendant son réquisitoire contre les deux musiciens lors de l'audience d'hier vendredi n'a pas du tout ébranlé la sérénité de ces deux mélomanes devant les juges. Du début jusqu'à la fin de l'audience, Delphin alias Idengo et son compagnon sont restés droits dans leurs bottes. Ils ont affirmé séance tenante avoir composé et publié sans tergiverser les chansons pour lesquelles ils sont poursuivis par la justice. Delphin alias Idengo et Moïse Nzanzu ont soutenu devant les tribunaux qu'en publiant ces chansons, c'était pour eux une occasion de rappeler au chef de l'État ses promesses faites à la population de l'Est et celle du Nord-Kivu en particulier pendant sa campagne électorale en 2019. C'est entre autres promesses mettre fin au massacre des populations et restaurer la paix et la sécurité dans la partie Est de la RDC, promesses jusque-là non tenues, a insisté Delphin alias Idengo. Le ministère public dans son réquisitoire a retenu avec constance l'infraction d'outrage contre l'institution présidence de la République pour le musicien Idengo. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour se prononcer le vendredi prochain. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Vouloir s'attaquer à la MONUSCO, c'est se tromper de cible. Cette mise au point a été faite vendredi après-midi par le gouverneur de l'Ituri au regard d'un sentiment anti-MONUSCO élargi aux humanitaires dans certaines zones de cette province. Dans un communiqué de presse, le général Johnny Luboyankashama condamne ceux qui veulent s'attaquer à la MONUSCO au risque de mettre en péril le partenariat avec le gouvernement congolais pour la protection des civils. Des précisions avec le porte-parole des FARDC dans cette province. Les propos du lieutenant Jules Ngongo ont été recueillis par Ezekiel Mouzalia.
Chers compatriotes, la MONUSCO est en mission de pacification et de stabilisation de notre province à l'invitation du gouvernement de la République avec mandat de protection de la population civile. En effet, vouloir s'attaquer à ses partenaires, c'est de se tromper de cible en jouant le jeu de notre ennemi commun, notamment les groupes armés et leurs alliés. Par ailleurs, ces attaques susceptibles de mettre à mal notre collaboration avec ses partenaires doivent être condamnées. Elles ne peuvent être tolérées pour la simple raison que la mutualisation des forces de tous les partenaires est à privilégier pour pacifier notre province et assister nos populations. Pour y parvenir, la collaboration de la population avec nos forces et la dénonciation de l'ennemi doivent être de mise et valent leur pesant d'or pour la restauration de l'autorité de l'État en cette période de l'état de siège en se désolidarisant des manipulateurs et des groupes armés.
Et puis l'intervention de l'armée ougandaise aux côtés des FARDC vise à anéantir les rebelles ougandais de l'ADF en Ituri et au Nord Kivu. C'est en tout cas l'essentiel du message des députés nationaux de l'Ituri aux leaders communautaires. Au cours d'un point de presse animé hier vendredi à Bunia, l'un d'eux a indiqué que la mutualisation des forces permettra ainsi d'entamer des réformes profondes dans les forces de sécurité. Gratien Iratian est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Nous voulons demander à tous nos enfants, tous nos fils qui sont dans les groupes armés, de pouvoir se démobiliser. Et la nouveauté est qu'aujourd'hui, il y a l'armée qui se bat. Bien sûr, il y a des cas qui continuent, mais il y a des efforts qui seront faits parce que la mutualisation des forces concerne les deux provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. C'est comme ça, nous sommes quatre députés de l'Assemblée nationale pour pouvoir tout simplement demander aux leaders communautaires d'accepter la mutualisation des forces parce que nous avons besoin de faire des réformes profondes qui peuvent nous prendre du temps et finissons avec les ADF, finissons avec les groupes armés. Avoir la mutualisation des forces ne veut pas dire que les FARDC sont faibles. Les FARDC ont montré leur capacité. Vous avez vu à l'époque avec MV3, il y a des infiltrés qui sont en train de détruire, de salir l'image de l'armée et nous avons donc cette obligation aujourd'hui de redevenir Congo pur et de pouvoir travailler pour les biens de notre pays.
Une centaine de maisons, 5 écoles et 2 églises endommagées. C'est le bilan d'une pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi soir sur le territoire de Lubutu au Maniema. La nouvelle est annoncée à Radio Okapi par le président de la société civile locale. Emery Kizungu plaide pour une assistance en faveur des sinistrés. Il a été joint par Florence Kizalunga.
De Lubutu, ville se réveiller aujourd'hui dans un choc sérieux parce qu'hier, une pré-divisienne s'est abattue dans le milieu, causant beaucoup de dégâts matériels. Et parmi les dégâts du Colombo à Deloubutou, l'école primaire à l'école d'Aderson, l'école primaire à l'école d'Atil, l'Institut Gouillet et quelques maisons dans des avenues et quartiers. Et les quartiers les plus touchés, le quartier Kalibaté ainsi que le quartier Nyafanza. C'est pourquoi la société civile Force Vive extérieure de Lobutu lance un cri d'alarme aux autorités tant nationales que provinciales, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales de pouvoir venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Jusque là, nous sommes au niveau des centaines de maisons et les dénombrements continuent toujours. Et les écoles, il y a précisément 5 écoles qui sont véritablement touchées. Il y a une église de la 8e sépac Baraka qui est totalement endommagée. Nous remercions grandement l'Éternel Dieu notre de pouvoir nous épargner ce tas de morts.
On passe maintenant au Sud Kivu où les 3 journalistes de la ville de Bukavu qui ont été blessés jeudi dernier à l'Assemblée provinciale sont soignés à leurs propres frais. L'organisation de protection des droits humains qui leur a rendu visite hier après-midi propose que les auteurs répondent de leurs actes devant la justice. Une autre organisation de la société civile qui milite pour l'accès à l'information demande à l'ONG journaliste en nom des GED de soumettre ces cas aux instance internationale étant donné que la RDC n'a pas de loi qui protège les journalistes pour le cas d'espèce. Radio Okapi Bukavu, Jean Kassami.
3 journalistes de Bukavu ont été blessés par des balles en caoutchouc tirées dans la foule par la police lors du vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial dirigé par Théo Ngwabi Djekassi. Aujourd'hui, plusieurs organisations dénoncent ce qu'elles qualifient d'entrave à la liberté de presse étant donné que la plénière de ce jour-là ne prévoyait pas traiter de sujets non communicables. Le chargé de communication des collectifs 24, Kito Kolou, le promet l'implication de son organisation pour que les droits soient dits en faveur des journalistes blessés par la police.
Nous n'avons pas la force juridique de frapper sur les policiers ou ceux qui l'ont commandité, mais on va publier sur notre site, en collaboration avec GED, et ils vont documenter ça. Ce sont des violations en matière de liberté de presse.
L'Union de la presse du Congo, INPC, Sud Kivu, a publié un communiqué dans lequel elle demande au commandement de la police du Sud Kivu et au gouvernement provincial déchu par l'Assemblée provinciale de fournir des explications capables de recréer le climat de confiance entre les journalistes et les autorités de la province du Sud Kivu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Revenons un instant à Goma où une vingtaine de journalistes et juristes ont achevé hier vendredi une formation de 2 jours sur la protection de l'enfant en période de conflit armé. Ce recyclage a été initié par le collectif des éditeurs avec l'appui de la MONUSCO. Les participants sont venus de Goma, de Masisi, de Rutshuru et de Walikale. Des précisions avec le président de l'association des éditeurs de la région, Okito Teme, et au code de Sifa Magro.
On ne peut pas informer sans être formé. Et comme nous venons d'être formés, nous allons mettre en action tout ce que nous venons d'apprendre ici pour permettre à ce que les enfants qui sont dans des groupes armés, les enfants qui sont victimes, mais aussi ces bandits qui recrutent les enfants, puissent les mettre à l'état, la partie est de la République démocratique du Congo, soit en paix.
Actualité internationale.
Au Kenya, au moins 20 personnes sont mortes noyées ce samedi lorsque leur bus a été emporté d'un pont par une rivière en crue au centre de Nairobi, la capitale. Le bus transportait des membres d'une chorale d'église et des villageois à un mariage. C'est ce qu'annonce à la presse le commandant de la police du sous-comté de Mwingi Est où s'est produit le drame. Un Palestinien a poignardé cet après-midi une personne à Jérusalem-Est, près de la porte de Damas. Quelques minutes après, il a tenté de poignarder aussi un officier de la police de frontière. La police israélienne affirme avoir neutralisé l'individu qui est décédé par la suite. Élection présidentielle ce samedi en Gambie. Ce scrutin à un tour est considéré comme un test pour la démocratie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, en Afghanistan, 3 mois et demi après après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, la France poursuit ses opérations d'évacuation. Un avion affrété par le ministère français des Affaires étrangères vient de mettre à l'abri plus de 300 personnes exfiltrées vers le Qatar.
L'invité.
Notre invité, c'est la chef de la sous-délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Goma. Madame Jackie Kingan affirme que l'accroissement des tueries et d'autres actes de violence rendent difficile le travail de protection des habitants. Elle s'entretient avec Sifama Gourou.
Madame Jackie Kingan, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo se complique davantage avec pas mal d'incidents, les attaques contre les populations, les tueries, les déplacements des populations dans tous les sens, les violences qui s'intensifient. Quelle est votre analyse? Tout d'abord.
Je n'ai pas besoin de vous dire. Il y a 120 groupes armés à l'est du Congo. Il y a des opérations militaires qui ont été lancées bien avant, mais aussi pendant l'état de siège. Le gouvernement a pris des actions pour mettre fin aux problèmes liés à cette criminalité et aux groupes en armes. Mais le problème toujours est que si les opérations militaires ne sont pas suivies par des mesures de mise en place de gouvernance locale et de l'état de droit avec la police, avec la justice, avec les institutions qui protègent contre l'impunité, on va toujours avoir des difficultés. Donc on a des choses qui ont été lancées par la suite. Maintenant, nous devons commencer à travailler sur les racines du problème et sur les institutions et les services qui vont avoir un impact positif sur les populations.
Vous avez parlé des chiffres par rapport aux personnes qui ont été contraintes à se déplacer à cause de la violence.
Le gouvernement est en train de suivre les chiffres des personnes qui sont déplacées. Pour le moment, si je comprends bien, les autorités locales, juste dans le territoire de Beni, a identifié jusqu'à 800 000 personnes déplacées depuis le début de l'année. Je sais qu'on a aussi des chiffres importants aussi dans l'Ituri, dans le Massissi, etc. Le taux de déplacement est énorme. Et ici, pour le moment, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de criminalité, tellement de mouvements et d'affrontements militaires que les personnes qui habituellement auraient pu fuir pendant une courte période et rentrer, accéder à leurs champs, accéder à leurs biens, maintenant ils sont contraints, ils ne peuvent plus rentrer. Ça leur met aussi les familles d'accueil en difficulté. Les Congolais sont généreux. Super généreux avec leur accueil. Ils prennent des personnes et ils partagent les deux fois rien qu'ils ont. Le problème, bien sûr, c'est que après cette année de plusieurs mouvements, non seulement pour le conflit, mais aussi suite au volcan, nous voyons des familles d'accueil, des communautés qui sont épuisées par le lot qu'on leur a demandé. Et on essaie, nous, les humanitaires nationaux et internationaux, on essaie de contribuer et de leur soutenir, mais je pense que le plan d'action humanitaire est financé à 30%. Donc, on est loin d'être en mesure de répondre à tous les besoins.
Alors, comme vous représentez le HCR, par rapport à la protection des réfugiés pendant cette période très sensible, ici, localement, au Nord Kivu, quel est votre constat? Est-ce que vous pensez que les personnes réfugiées bénéficient d'une protection requise ou il y a des préoccupations? Ici, chez nous, à Goma, il y a plusieurs fois où il y a eu de bouclage dans les quartiers et des centaines de personnes sont interpellées. Parmi ces personnes, il y a toujours des étrangers. Est-ce que ce sont des réfugiés ou des personnes en situation irrégulière ou quelle est la situation des réfugiés dans tout ça?
Comme vous savez, tous les étrangers ne sont pas réfugiés. Un réfugié est une personne qui a dû fuir par crainte de persécution ou occupation ou d'autres problèmes liés aux crises à leur pays et qui, s'ils sont face à rentrer, risque d'être tués, d'être privés de leur liberté, etc. Mais pour être un réfugié, il faut mériter cette protection. Il faut être une personne qui est civile. Les porteurs d'armes ne peuvent pas être des réfugiés. Et une personne qui n'a pas commis des actes de criminalité sérieux, des crimes de guerre, etc. Et donc ici, on travaille dans une situation, comme vous dites, très complexe. Il y a bien sûr les personnes qui viennent des mêmes pays que des réfugiés, qui portent des armes et qui font des choses qui vont leur exclure de la protection internationale. Et c'est le travail du gouvernement, de la Commission nationale des réfugiés, de déterminer qui est éligible pour le statut de réfugié et qui est éligible pour profiter de la loi congolaise qui offre aux réfugiés non seulement la protection contre le refoulement. Le problème, évidemment, c'est s'il y a une confusion entre les réfugiés, des personnes qui sont là légalement, qui ont un statut reconnu par le gouvernement, et les personnes qui sont là pour d'autres raisons et qui posent problème. Et la confusion entre les deux peuvent mettre les réfugiés à risque.
Merci beaucoup, Madame Jackie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, la chef de la sous-délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à Goma, Madame Jackie Kigen, était interviewée à Goma par Sifa Maguru. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Merci pour la coordination assurée par Richard Junior Kamunga sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez ces journaux sur www.radiokapi.net.